Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo, Radio Territoria, et surtout bienvenue au Forum de l'aménagement durable, deuxième après-midi, enfin, premier après-midi, puisqu'on est sur ces deux jours de salon. On va parler dans un instant fonds friche, fonds verts, quelles sont les opportunités, le calendrier, les modes d'emploi et les types de financement. Un invité avec nous de marque, c'est Jean-Baptiste Butlen. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Vous êtes sous-directeur de l'aménagement durable au ministère de la Cohésion des Territoires. On est également en compagnie de François Riossec qui,
oui, bonjour,
dans un instant, va introduire le sujet, et de Constance Tarvic qui est rédactrice en chef adjointe chez News Tank City. Bonjour,
bonjour.
Cassandre. Voilà. Voilà, mais... François, c'est à vous pour ce fonds vert, fonds friche.
Chers amis, donc nous accueillons Jean-Baptiste Butlen, qui est sous-directeur à l'aménagement durable à notre ministère. Merci d'être parmi nous. Et puis, nous avons placé ce salon sous l'optique des solutions, dans une période compliquée, hein, à beaucoup de titres. Et nous souhaitons donc que vous nous parliez des solutions par rapport aux questions financières qui nous préoccupent, notamment sur la question des friches, du fonds vert, la renaturation. Je crois que dans un deuxième temps, vous pouvez nous donner également un aperçu de l'évolution possible du projet de loi sénatorial et sa reprise par l'Assemblée nationale. Donc, merci, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président.
On démarre effectivement avec le fonds vert. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce fonds et ce dispositif, comment il fonctionne ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors, bon, tout d'abord, un grand merci à l'UNAM de me permettre d'intervenir aujourd'hui pour évoquer ces sujets qui sont importants pour accompagner l'aménagement durable. Quelques mots, effectivement, comme vous m'y invitez, sur le fonds vert, avant de peut-être zoomer plus particulièrement sur deux mesures relatives, l'une au recyclage des friches et l'autre à la renaturation des villes. Donc, le fonds vert, si la diapositive peut fonctionner, je pense que monsieur, en fait, voilà, parfait, merci. Donc, le fonds vert avait été annoncé par la première ministre à l'été 2022, vous vous en souvenez, hein, et il est désormais en place, donc les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes. C'est un fonds qui est doté pour 2023 de 2 milliards d'euros et c'est un fonds qui est entièrement déconcentré sous l'égide des préfets, ce qui veut dire que les dossiers sont bien instruits sous l'égide des préfets et que les lauréats sont choisis par les préfets, ce qui change par rapport à d'autres dispositifs qui pouvaient exister par le passé. Donc ce fonds, il est de 2 milliards d'euros, a été ventilé entre l'ensemble des régions de métropole et d'outre-mer et il est structuré en trois axes. Un axe relatif à la performance énergétique et environnementale, un axe relatif à l'adaptation au changement climatique et un axe relatif à l'amélioration du cadre de vie. Le principe était que le fonds vert, finalement, soit le plus simple possible pour les porteurs de projets que sont notamment les aménageurs. Et donc, les dépôts de dossiers se font sur une unique plateforme qui est la plateforme Démarche Simplifiée, qui est déjà bien connue de ceux qui avaient utilisé le plan France Relance. Et toutes les informations sur les critères d'éligibilité sont précisées sur un unique endroit qui est la plateforme Aide Territoire, qui est aussi bien connue des collectivités. Donc c'est vraiment un dispositif qui se veut le plus simple possible avec un mécanisme finalement de dépôt au fil de l'eau. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a pu connaître ces précédentes années, il n'y a pas de principe d'appel à projet dans un calendrier rigide. Là, tout au long de l'année 2023, les collectivités, les aménageurs peuvent déposer leurs dossiers sur démarche simplifiée.
Du 1er janvier au 31 décembre.
Alors, pas tout à fait au 31 décembre, dans la mesure où on fonctionne quand même avec l'annualité budgétaire. Et donc, il faut que les services financiers puissent établir les conventions et verser les avances. Ce qui veut dire qu'en gros, les derniers lauréats seront désignés dans le courant du mois de novembre 2023. Mais quoi qu'il en soit, on vous encourage à déposer les dossiers qui sont d'ores et déjà mûrs le plus vite possible.
L'objectif, on le voit, démarrer un maximum de projets pour 2023. Il y a un objectif chiffré ?
Il n'y a pas d'objectif chiffré, il y a un objectif de consommation de la totalité de l'enveloppe.
Ouais. Où est-ce qu'on en est ? Tiens, aujourd'hui, on est bon, premier trimestre qui est déjà passé. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a déjà les premières candidatures et quelle est la volumétrie ?
Alors, il y a déjà eu une conférence de presse qui a conduit à la délivrance de premiers chèques fonds verts pour 150 lauréats, dont certains qui concernent les mesures dont, que je vais présenter. Globalement, ce que je peux dire, c'est que le fonds vert a trouvé son public et que toutes les mesures ont un très fort succès, en particulier celles sur les friches, celles sur la renaturation des villes, mais aussi celles sur ce qu'on appelle le relamping, qui est en fait la modernisation du parc finalement d'éclairage urbain. Et donc, on a déjà des dossiers par plusieurs milliers qui dépassent largement en demande de subvention les 2 milliards qui sont budgétés, ce qui effectivement encourage ceux qui souhaitaient candidater à le faire rapidement, oui. Puisque même si effectivement on n'a pas de calendrier rigide de préétabli, il y aura quand même une logique où ceux qui ont déposé le plus rapidement et qui seront éligibles et en plus qui auront des bons projets auront plus de chances d'être retenus que les autres.
Qu'est-ce qui se passe justement pour ceux qui dépassent l'enveloppe? Ils sont basculés sur 2024.
Alors, la Première ministre a annoncé lors de cette conférence de presse qu'elle s'engageait à la pérennisation du fonds vert. Ce qui veut dire qu'effectivement, dans la loi de finances pour 2024, sera bien inscrit une mesure budgétaire pour le fonds vert. Et a priori, effectivement, il y aura bien une continuité sur les mesures dont on va parler tout de suite. Il y aura sans doute aussi une adaptation de la maquette au regard des éventuels besoins supplémentaires d'accompagnement des territoires qui auront été mis en lumière durant cette année.
Ok, on va rentrer un petit peu dans le détail. Juste après, Cassandre, vous avez peut-être une première question.
Oui, alors donc 150 projets ont été sélectionnés en tant que lauréats. Est-ce que vous pouvez nous en parler, notamment ceux qui concernent les aménageurs, à savoir ceux sur le recyclage foncier et peut-être sur la renaturation des villes aussi. Il me semble que dans la salle, il y a certains des visiteurs,
des aménageurs. Salon,
des aménageurs, mais aussi peut-être d'autres métiers, qui ont été lauréats. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que, je crois qu'il y a monsieur là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces premiers lauréats? Comment ça s'est passé? Quels ont été les critères de sélection? Et comment on doit agir si aujourd'hui on est aménageur et qu'on veut bénéficier de ce fonds vert?
Alors, il y a 9 premiers lauréats concernant le recyclage des friches. C'était des projets qui, effectivement, étaient déjà très, très mûrs et très ambitieux. Ça ne préfigure pas nécessairement de la catégorie des projets qui seront retenus. Et je pense que le plus simple est peut-être de présenter finalement les critères qui présideront au choix des lauréats dans le cadre des 2 mesures dont je vais parler, pour que finalement, éventuellement, ça suscite des questions et qu'on puisse voir effectivement comment les uns ou les autres peuvent rentrer dans le dispositif.
Oui, puisqu'on va le voir dans un instant, le fonds vert prend la suite du fonds friche. Hein.
Alors, si je rentre dans le détail, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite, parce que madame est devant l'écran, donc voilà, merci. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, donc la première mesure qui est relative au recyclage foncier, finalement prend la suite du fonds friche, qui est déjà bien connu, et il procède exactement de la même logique. C'est-à-dire que cette mesure recyclage foncier, elle vise à accompagner des projets de recyclage des friches dont le déficit économique est manifeste, et ce, malgré la prise en compte des autres subventions publiques de droit commun et malgré les tentatives d'optimisation de l'aménageur, notamment optimisation en matière de densité, de mixité. Mais de fait, hein, on le sait que le recyclage des friches est compliqué, en particulier lorsque les friches sont polluées ou en secteur détendu lorsque le marché tâtonne et du coup ne couvre pas les dépenses de recyclage de ces friches. Donc le fonds friche avait été un vrai succès, on s'en souvient, en 2021 et 2022, puisque 750 millions d'euros de subventions avaient été distribués, qui ont pu accompagner de l'ordre de 1400 lauréats et qui ont permis du coup le recyclage à terme de l'ordre de 1400 hectares de friche. Donc la Première ministre, assez légitimement, a souhaité pérenniser ce dispositif dans le cadre du fonds vert, et c'est l'objet de ce que je vais présenter. Donc le dispositif est le même que dans le fonds friche, hein. Les dépenses qui sont éligibles sont des dépenses soit d'études, soit d'acquisition foncière, soit de travaux, de démolition, reconstruction, réhabilitation de bâtiments. Ont été ajoutées à la demande des aménageurs une autre dépense éligible qui est la dépense de renaturation pure d'une friche transformée soit en espace naturel, agricole et forestier, soit en parc urbain par exemple. Ce n'était pas jusqu'à présent éligible et ça le sera désormais. Les publics éligibles sont également les mêmes que ceux du fonds friche, c'est-à-dire qu'en priorité, bien sûr, ce sont les collectivités et leurs opérateurs, dans lesquels on retrouve notamment les établissements, les entreprises publiques locales, comme les sociétés d'économie mixte notamment, ou les sociétés publiques locales. Mais finalement, plus globalement, on retrouve tous les aménageurs publics dans lesquels il y a notamment les établissements publics d'aménagement, par exemple. Le cahier d'accompagnement précise bien que les organismes de foncier solidaire et les bailleurs sociaux sont aussi éligibles. Et on a aussi souhaité faire une petite exception pour cette mesure par rapport à d'autres mesures du fonds vert, de sorte que les aménageurs privés sont aussi éligibles, dès lors qu'effectivement, il y a un accord de la collectivité compétente et qu'il y a le respect des critères, notamment d'éligibilité par rapport au régime aide d'État européen. Voilà, donc c'est quand même un public éligible relativement large. Après, vous m'interrogez sur les critères. Bon, pour rentrer dans les critères, déjà, il faut être éligible. Donc, il faut recycler une friche et avoir fait la preuve qu'on l'optimise. Et ensuite, évidemment, tous les dispositifs qui produisent particulièrement les besoins du territoire en termes de logement, de surface économique et qui, en plus, répondent à des critères de qualité écologique auront toutes les chances d'être tenus, a fortiori lorsqu'ils sont dans des territoires prioritaires comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, les quartiers prioritaires de la ville, les opérations d'intérêt national, les projets partenariaux d'aménagement, etc. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas un mécanisme qui est inconnu des aménageurs, puisque finalement, ils l'ont déjà expérimenté pendant 2 ans.
Ce fonds vert est doté de 2 milliards. Combien ont été dépensés lors de cette première vague de lauréats? Combien à destination de cette mesure recyclage foncier? Et qu'est-ce que ça peut représenter sur l'année, cette mesure?
Alors, je pense que c'est surtout la dernière question qui est intéressante. S'agissant des 2 milliards, dans les calibrages, les choses sont connues, hein, donc il n'y a rien de secret. Dans les calibrages, cette mesure recyclage foncier avait été précalibrée à 300 millions d'euros, qui est à peu près finalement l'épure de ce qui avait été réservé annuellement pour le fonds friche. Ces 300 millions d'euros pourront effectivement être dépassés dans la mesure où toutes les mesures du fonds vert sont fongibles, de sorte que finalement, si une mesure est plus plébiscitée qu'une autre, un préfet peut très bien décider finalement de donner plus pour le recyclage des friches, par exemple, et moins pour des logiques de restauration des digues, par exemple. Donc, il y a un objectif global de 300 millions pour les friches, ce qui nous permettra de rester à peu près dans l'ambition du fonds friche, mais on peut aller au-delà, en fait.
On a on va poursuivre sur les explications. Mesure renaturation des villes et des villages. Ah oui, justement, quelle est l'ambition, voilà, renaturation, puisqu'on est on l'a vu, on le voit tous, dans une crise climatique sans précédent. Je passe sur les rapports du GIEC, toujours plus alarmistes les uns que les autres. On l'a vu, de toute façon, en été, on passe maintenant de sécheresse, non plus de l'été, mais de l'hiver. Donc on a l'impression qu'on est dans une urgence. Quelles sont les mesures que vous proposez?
Alors, vous avez rappelé le contexte dont la Première ministre, avait pris toute la mesure lorsqu'elle avait annoncé dès le mois de juin 2022 qu'elle l'entendait mettre en place une mesure d'aide à la renaturation des villes et des villages, notamment pour finalement faire face aux épisodes de canicule et pour rafraîchir les villes. Donc finalement, cette mesure qui avait été annoncée a trouvé sa place dans le fonds vert. L'objectif est bien de renaturer d'abord pour lutter et s'adapter au changement climatique. Mais globalement, on sait bien que la nature en ville a bien d'autres bénéfices que le simple rafraîchissement des villes. Elle peut contribuer à réguler les crues, elle peut contribuer à apporter de la biodiversité en ville, elle peut contribuer à dépolluer les sols ou l'air, elle peut aussi contribuer à améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Donc globalement, c'est une mesure qui satisfait beaucoup de monde et on s'en réjouit. Et donc le mécanisme finalement procède du dépôt de dossiers, de projets de renaturation des villes selon 3 thématiques possibles, soit des projets qui visent à renaturer les sols et les espaces urbains, soit des dossiers qui visent à rétablir la présence de l'eau en ville, notamment via des restaurations de zones humides ou des réouvertures de cours d'eau par exemple, ou alors des dossiers qui visent à végétaliser les bâtiments, notamment les façades et les toitures. Donc les 3 possibilités sont ouvertes. Et donc les critères d'éligibilité finalement sont assez simples. Il faut répondre à ces trois critères possibles, hein, soit les sols, soit l'eau, soit les bâtiments. Et il faut être dans l'espace urbanisé. Donc c'est quand même relativement simple. Le public éligible est exactement le même public que pour la mesure précédente, hein, c'est-à-dire que c'est d'abord les collectivités, plus globalement tous les aménageurs publics, mais aussi les aménageurs privés sous certaines conditions.
A contrario, qu'est-ce qui est non éligible?
Eh bien, tout ce qui est finalement nature en ville, qui n'est pas en pleine terre ou qui n'est pas sur un bâtiment, bon, on peut avoir des mesures d'embellissement de la ville avec finalement des villages fleuris qui ne sont pas pour autant une présence de nature en ville. Après, il y a beaucoup de dispositifs, par exemple, qui peuvent améliorer la présence de certaines espèces en ville, des nichoirs, etc., etc., qui là ne sont pas fondamentalement éligibles puisque ce n'est pas une opération d'aménagement en tant que telle. Voilà.
Cassandre, une question sur la renaturation, peut-être.
Peut-être pas sur la renaturation en tant que telle, mais sur peut-être les deux mesures qui nous concernent aujourd'hui. Il avait été reproché au fonds Friche et à toutes les démarches de financement de ces projets auprès des collectivités, le problème du guichet, de l'appel à projet, de la procédure et de l'ingénierie territoriale dont il faut faire preuve pour obtenir ces financements. Est-ce que c'est facilité? Comment vous faites pour accompagner des collectivités qui n'ont pas forcément cette ingénierie au sein de leurs équipes? Comment vous faites pour que ça ne s'adresse pas qu'aux grandes métropoles?
Alors, effectivement, ça avait été une critique formulée dans le cadre de France Relance, d'autant que l'objectif du plan de relance était finalement de pouvoir débloquer des dossiers mûrs dans les cartons très très vite. Donc l'objectif n'était pas quand même le même que celui du Fonds vert, qui est celui d'accompagner toutes les collectivités dans l'accélération de la transition écologique. Donc pour répondre à votre question... L'une des mesures du fonds vert est relative à l'accompagnement de l'ingénierie des territoires, de sorte que finalement des collectivités qui ne sont pas encore complètement prêtes et qui ont besoin finalement d'avoir des appuis pour des études, des appuis pour de l'animation locale, peuvent effectivement formuler une demande dans le cadre de cette mesure du fonds vert et elles bénéficieront de crédits de subvention ou d'appuis d'un réseau d'opérateurs que sont les agences d'urbanisme, les CAUE, le CEREMA, l'ADEME, la Banque des territoires, qui finalement pourront apporter leur concours auprès des collectivités pour nourrir leur stratégie, voire préparer leur dossier. Plus spécifiquement, dans les deux mesures que j'ai évoquées, on a également prévu de façon un peu premium des accompagnements par les agences de l'eau, par l'ADEME ou par le CEREMA, de sorte qu'effectivement, on puisse aussi accompagner des collectivités qui n'ont pas forcément l'ingénierie suffisante pour tout de suite déposer un tel dossier.
Ah oui, il y a même des start-up hein, telles que Urban Vitalis qui se lancent et qui aident effectivement les petites ou moyennes collectivités à justement débloquer. C'est vrai que ce n'est pas évident de se retrouver dans le maquis des aides ou des différentes strates. Ça, c'est intéressant aussi comme initiative.
Oui, oui. Et d'ailleurs, bon, les différentes solutions numériques, hein, Urban Vitalis, Urban Simul, Carto Friche, ont aussi été financées dans le cadre de France Relance. Donc, ça procède effectivement du même objectif. Vous avez raison.
On élargit un petit peu le sujet. On a beaucoup parlé du ZAN ce matin, zéro artificialisation nette. C'est l'inquiétude aussi, on l'a compris, des aménageurs. Donc, ce fonds vert, évidemment, il accompagne sur les friches et c'est tant mieux. Mais la question plus largement, Jean-Baptiste Butlen, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à construire?
Alors, vous imaginez que pour le sous-directeur de l'aménagement, c'est très important qu'on continue à construire. Donc, la réponse est oui.
Content de l'entendre. Vous l'entendre dire.
La réponse est oui, il faut évidemment continuer à construire dans les territoires où il y a des besoins, en particulier dans les territoires où l'offre de logement ou l'offre de surface économique fait défaut et où on constate malheureusement une spéculation foncière et immobilière accrue. Donc c'est évidemment très important de continuer à construire. Le zéro artificialisation net est une trajectoire jusqu'à 2050 qui est progressive avec plusieurs jalons. Et c'est surtout une trajectoire qui est territorialisée, de sorte que finalement, l'effort de sobriété foncière soit modulé en fonction des réalités, des besoins des territoires, dans lesquels on prend en compte les dynamiques démographiques, on prend en compte les dynamiques économiques, notamment l'accueil de bureaux, de commerces, d'industries, sont également pris en compte, évidemment, les notions d'équilibre du territoire, c'est-à-dire structurer les centralités, les infrastructures, lutter aussi contre une forme de désenclavement rural, et sont aussi pris en compte, finalement, les gisements déjà artificialisés qui peuvent, finalement, être remobilisés pour construire en recyclage urbain. On parle notamment des friches ou des locaux vacants. Donc, la réponse à votre question est, évidemment, oui, il faut continuer à construire. On voit que, néanmoins, on construit plus aujourd'hui ou demain comme on construisait hier. Construire plus en recyclage urbain, ça nécessite en réalité peut-être de compenser certains surcoûts. Et c'est précisément pour répondre à ces questions du modèle économique que les mesures qu'on vient d'évoquer ont été conçues.
En ce moment, le ZAN fait débat. D'ailleurs, depuis que la loi climat a été adoptée, aménageurs comme collectivités semblent avoir du mal. Ce matin, il a beaucoup été évoqué le mot de contrainte en parlant du zéro artificialisation net. La proposition de loi en cours d'examen, enfin, qui a terminé d'être examinée au Sénat, est censé assouplir ou peut-être faciliter la mise en œuvre de ce ZAN. Quelle est la vision du ministère et de la sous-direction dont vous avez la charge sur ce texte? Comment il peut évoluer? Comment on peut faciliter la prise en compte des objectifs de sobriété foncière par les collectivités et dans les territoires tout en continuant à construire?
Alors bon, tout d'abord, la première idée que je voulais faire passer, c'est que cette réforme de sobriété foncière, elle ne se limite pas à une trajectoire et elle ne se limite pas à un texte. C'est-à-dire que d'aucuns le savent, hein, mais il y avait finalement une réforme qui était articulée au cours de trois axes. C'est-à-dire le premier, mieux connaître ce dont on parle, la consommation d'espace et l'artificialisation des sols, avec des notions qui pour certaines sont nouvelles et qui vont prendre du temps finalement à être appréhendées par l'ensemble des acteurs. Deuxième axe, mieux accompagner les territoires, on vient d'en parler, parce que c'est plus compliqué et plus coûteux de reconstruire la ville sur la ville, que leur annuturation et le génie écologique, c'est aussi un métier. Et donc, il y avait vraiment toute cette approche pour développer l'ingénierie, apporter des subventions et par des logiques contractuelles, finalement, inventer des nouvelles solutions pour l'aménagement durable de demain. Et enfin, effectivement, une logique de trajectoire, puisque on est dans une logique où on a des objectifs supra de zéro émission nette de carbone, de zéro perte nette de biodiversité. Et on voit que bien que finalement, que ce soit le carbone ou que ce soit la biodiversité, l'artificialisation est un déterminant majeur de l'atteinte de ces trajectoires. Par exemple, hein, le GIEC met en avant que l'artificialisation est la cause numéro une de l'érosion de la biodiversité. Donc on voit bien que finalement, derrière, il y a une cohérence dans les objectifs que nous nous fixons. Donc, partant de là, effectivement, une partie des mesures nécessitait de passer par la loi, d'où la loi climat-résilience qui a déjà pour partie été complétée, voire assouplie par la loi 3DS. Et la Première ministre s'était exprimée à la fin du Salon des maires du 22 novembre 2022 pour indiquer que s'il n'était pas question de revenir sur l'objectif ou sur l'échéance, en revanche, elle avait pris la mesure d'un certain nombre de demandes des élus et elle était prête finalement à réfléchir à certains ajustements de la loi. Donc, bon, je vous ai remis à l'écran, c'est écrit en tout petit, je m'en excuse, le verbatim finalement de la Première ministre qui, comme à son habitude, est très claire dans son expression. Elle a indiqué qu'il y avait tout d'abord des ajustements qui étaient possibles sur la façon dont on calcule, dont on détermine, dont on mesure les objectifs de sobriété foncière. En particulier, pour rentrer un peu dans le détail, d'ici à 2031, pour la première décennie, on compte en consommation brute d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Elle a dit que finalement, dès la première décennie, on pourrait prendre en compte la renaturation dans une logique de net. Elle a aussi dit que le décret qui, à compter de 2031, définit ce que c'est que l'artificialisation nette des sols était peut-être un peu technique. Elle était prête finalement à demander à ses services de l'ajuster pour le rendre plus lisible et plus opérationnel. Donc ça, on s'y emploie. Ensuite, elle a indiqué qu'il y a deux sujets sur lesquels elle est prête à répondre aux inquiétudes du Sénat. La première, c'est comment est-ce qu'on compte les grands projets d'envergure nationale. Et elle a indiqué à cet égard qu'elle était prête à réfléchir à un mécanisme qui conduit à les mutualiser au niveau national, de sorte qu'ils ne pèsent pas sur les enveloppes régionales et locales. Et enfin, elle a indiqué que dans la logique de territorialisation, où on adapte finalement l'effort à la réalité des besoins, elle ne voulait pas qu'on oublie le monde rural et qu'elle était prête à penser à une garantie rurale de sorte qu'aucune commune en France ne se retrouve finalement avec une absence totale de possibilité de construire pour l'avenir. Voilà, donc ça, c'est les annonces qui ont été formulées par la Première ministre. Après, effectivement, le Sénat a travaillé. Une mission sénatoriale a été mise en place et une proposition de loi a été déposée par le sénateur Jean-Baptiste Blanc.
Justement, sur cette proposition de loi, on a eu plus de détails par rapport à ces annonces de novembre. Quels sont les assouplissements qui vont être soutenus par le gouvernement lors de l'examen à l'Assemblée et potentiellement en CMP ensuite? Et quels sont ceux sur lesquels on ne reviendra pas? Il y a quand même beaucoup d'éléments dans la proposition sénatoriale.
Alors, bon, le travail parlementaire se fait hein, entre les différentes parties de ce qu'on appelle le législateur, c'est-à-dire le Parlement d'un côté et le gouvernement de l'autre. Le texte qui a été déposé au Sénat a été examiné en première lecture, vous avez raison. Il doit poursuivre sa navette pour aller ensuite à l'Assemblée nationale. On n'a pas encore de date d'examen à l'Assemblée nationale avant que ce qu'on appelle une commission mixte paritaire ne se réunisse pour finalement arbitrer sur le texte final. Donc on est au milieu du guet par rapport à l'examen parlementaire de ce texte. Les sénateurs ont été assez loin dans leur proposition d'assouplissement, au goût du gouvernement un peu trop loin, et je le dis de façon assez neutre, si je puis dire, puisque le ministre Auban a été clair hein, sur les lignes rouges qui lui semblaient être franchies. Néanmoins, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, sur le fond, il y a finalement une convergence de vues, notamment sur, comme je le disais, hein, la renaturation, à prendre en compte le plus vite possible pour le valoriser, sur le fait de doter les collectivités de moyens pour maîtriser la consommation d'espace dès maintenant, sans attendre la révision de leur PLU, avec notamment des logiques de droit de préemption ZAN ou de sursis à statuer. Il y a des débats sur les délais, parce qu'à partir du moment où on touche la loi, bah après, il faut effectivement que les collectivités s'en saisissent, et voilà.
Et là-dessus, sur l'assouplissement du calendrier, ça a été confirmé, ça a été... Est-ce que, enfin,
Ce que le ministre a indiqué, c'est qu'il faudrait y réfléchir si la loi était ajustée. Après, les sénateurs proposaient de repousser d'un an. Le ministre Auban a dit qu'il aurait plutôt pensé repousser les échéances pour les schémas régionaux de 6 mois. À ce stade, il faut que le débat démocratique ait lieu. Voilà. Après, sur les annonces de la Première ministre, s'agissant des grands projets et de la garantie rurale, je pense qu'il y a un accord sur l'objet. Il n'y a pas un accord encore sur la méthode. Et on voit bien que finalement, entre la proposition de loi déposée par les sénateurs et celle qui a été déposée par les députés, un peu après, il y a deux visions différentes qui finalement devront être conciliées dans le débat parlementaire et ensuite lors de la commission mixte paritaire.
Ça pourrait prendre combien de temps avant la fin de l'année ?
En tout cas, d'un point de vue technique et d'un point de vue des professionnels que nous sommes tous, on peut espérer que ça aille le plus vite possible, puisqu'en réalité, on a besoin que les règles du jeu soient stabilisées rapidement. Dans le meilleur des cas, effectivement, c'est une publication pour le second semestre, en tout cas, mais pas avant, ça c'est sûr.
Au second semestre, il y a aussi un texte très important pour tous les acteurs qui sont là aujourd'hui, c'est le PLF. Est-ce que vous allez adapter des mesures à cette loi, à cette volonté ? On attend une réforme fiscale de la part du Parlement, du gouvernement, pour rendre le modèle du ZAN économiquement viable. Est-ce que c'est à l'ordre du jour ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui est travaillé entre les pouvoirs publics et les aménageurs depuis longtemps, et notamment en accompagnement du zéro artificialisation net. À cet égard, vous avez dû noter hein, que le même sénateur Jean-Baptiste Blanc avait remis un rapport au Parlement avec un certain nombre de propositions. Il avait aussi demandé finalement l'appui de la Cour des comptes, plus exactement du Conseil des prélèvements obligatoires.
On a parlé ce matin, effectivement.
Qui a formulé un certain nombre de recommandations aux parlementaires. Ce document doit effectivement être travaillé dans la préparation de la loi de finances. Ce qu'il apparaît finalement, c'est que le levier fiscal peut être appréhendé soit à travers la fiscalité locale, soit à travers la fiscalité de l'aménagement. Du point de vue de la fiscalité locale, c'est revenir finalement sur des logiques notamment de taxes foncières bâties, taxes foncières non bâties, la façon dont elles sont calculées, etc., etc. Du point de vue de la fiscalité de l'aménagement, qui est peut-être plus la matière qui nous réunit aujourd'hui, il peut y avoir des réflexions autour de la façon dont sont captées finalement les plus-values de cession des terrains aujourd'hui agricoles qui deviennent constructibles. Il peut y avoir des réflexions autour d'ajustements de la taxe d'aménagement, notamment avec des abattements lorsqu'effectivement ça va dans le sens de la construction en renouvellement de la ville sur la ville. Il y a déjà eu quand même des ajustements qui ont été consentis lors des précédents projets de loi de finances, notamment des abattements de plus-value pour des logiques de surélévation, par exemple. Mais on en avait déjà fait la promotion, notamment au Réseau national des aménageurs.
Olivier Klein a parlé de taxer l'artificialisation. Est-ce que ça va être réfléchi, pensé ? Est-ce que c'est déjà dans les tuyaux ?
Alors, en tout cas, je crois que Olivier Klein vient vous rendre visite tout à l'heure, donc ça sera l'occasion de lui poser en direct la question. Mais le ministre Christophe Béchu a effectivement plutôt parlé de réfléchir à ce que j'évoquais, c'est-à-dire la taxation des plus-values de cession des terrains aujourd'hui agricoles ou naturels et qui deviennent constructibles. C'est, pour mémoire, hein, une taxe qui existe déjà. En fait, il en existe même deux. Il y a une taxe nationale qui est pour des opérations vraiment de très grande ampleur avec une forte augmentation de la plus-value, si je puis dire. Et il existe une taxe facultative à la main des collectivités qui est assez peu mise en œuvre. L'idée est peut-être de les fusionner et d'en créer une qui réponde effectivement à l'objet énoncé par le ministre. Mais encore une fois, les débats sont encore devant nous et il y a encore beaucoup d'études d'impact pour nourrir cette idée-là.
Pour élargir le débat et terminer, conclure, si j'ose dire, les nouveaux, on a beaucoup parlé de sobriété foncière tout au long de cette journée, et on va en continuer. Pour vous, quels seraient ou quels devraient être les nouveaux modes d'aménagement, justement, à l'heure de cette sobriété foncière ou atteindre ?
Alors, c'est une question qui est compliquée parce que l'aménagement, et tous ceux qui sont autour de la table savent encore bien mieux que moi, a vocation vraiment à intégrer différentes politiques publiques, et l'aménagement est adapté aux besoins d'un territoire. Donc en fait, il n'y a pas un mode d'aménagement qui serait considéré comme durable. Ça s'interprète nécessairement par rapport finalement au contexte dans lequel il s'insère. Ce qui est clair, c'est que par rapport à l'atteinte des cibles de sobriété foncière, il faudra probablement qu'on fasse plus de renouvellement de la ville sur la ville, et peut-être continuer à construire, mais construire sur des espaces qui sont aujourd'hui considérés comme déjà artificialisés. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est peut-être celui quand même de la densité, qui n'est pas un gros mot. L'idée n'est évidemment pas de réduire la sobriété foncière à la construction de grands collectifs partout sur l'ensemble du territoire national, mais on peut rappeler quand même un chiffre qui est celui qu'aujourd'hui, 50% de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers en France sont constatés pour des opérations qui font moins de 8 logements par hectare, c'est-à-dire plutôt des formes très peu denses, avec un format de pavillon de 100 mètres carrés dans un jardin qui en fait 1100 à 1200. Et donc l'idée n'est absolument pas de stigmatiser la forme pavillonnaire, elle est plébiscitée par nos concitoyens, elle répond aussi à une forme d'habiter qui, dans certains cas, peut d'ailleurs être durable. Maintenant, pour certains de ces pavillons, peut-être qu'on peut prévoir de les faire plutôt en bande ou plutôt avec des jardins qui sont plus petits, plutôt dans des formes qui soient plus finalement mixtes, de sorte que le pavillon soit à proximité des services, des transports, et qu'on soit dans une logique plus de la ville dite du quart d'heure, même si c'est une dénomination qui est beaucoup décriée. En tout cas, je pense que ce sont des formes d'habiter qui sont à mieux réfléchir pour demain. Et en tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que il y a une demande de nos concitoyens d'avoir une ville qui soit plus mixte et moins minérale, c'est-à-dire qui allie aussi la construction à la réintroduction de la nature en ville. Et ça, je pense que c'est bien dans les mesures qui ont été présentées tout à l'heure et qui sont portées par le gouvernement.
Merci Jean-Baptiste Butlin, je pense qu'on peut l'applaudir et le remercier, sous-directeur de l'aménagement durable au ministère de la Cohésion des Territoires. Merci à Cassandre Darnic. On se retrouve dans quelques instants, on continue pour reparler de la réinsertion de la ville en ville via Natura City. À tout de suite.
Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.